Paroles d'écriture, émission mensuelle animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonjour. Deuxième émission cette année sur le thème de l'éducation. Et ce soir, plus précisément, éducation tout au long de la vie. Mais d'abord, merci aux auditeurs qui ont tenu à réagir très positivement à la dernière émission double, d'une part hommage à Jean-François Mattei, et d'autre part au thème qui était retenu initialement, « Et si de l'amour on ne savait rien ?». Et en réponse à de très nombreuses demandes sur le site, où vous allez retrouver toutes ces émissions, ces notes de synthèse et d'autres documents, je vous le donne, écoutez bien, prenez un papier, un crayon, http://www. Et au pluriel, et ça se relie, art au pluriel, culture au pluriel, éducation singulier, .com/. Vous retrouverez tout sur ce site. Pour ce soir, éducation tout au long de la vie, et nous avons à cette occasion trois invités. Yves Attou, président du Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie, qui travaille en partenariat avec l'UNESCO, que nous entendrons de Paris. André Jordan, qui est un chercheur en éducation et en pédagogie. Il circule entre Genève, son lieu d'attache universitaire, Paris, où il est souvent, et à Nice, d'où il vient et où il est régulièrement, et nous l'aurons en direct de Nice. Et enfin, en studio, Aurélien Portelli, enseignant à Grasse. Bonsoir Aurélien.
Bonsoir Michel.
Voilà, nous avons ces trois personnes et nous allons donc parler de l'éducation tout au long de la vie. Sujet complexe, difficile et pourtant porteur d'avenir et dans certains pays autres que la France, beaucoup plus développés que chez nous. Nous en sommes pratiquement encore à la conception de Durkheim au début du XXe siècle. Durkheim disait « L'éducation est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour les conformer à ce que la société attend d'eux ». Vous imaginez bien que cette conception d'éducation irradie l'enseignement, l'instruction, la formation et tout. Or, nous sommes passés en très peu de temps à une conception beaucoup plus officielle, alors que depuis des siècles et des siècles, des gens, des auteurs, comme Confucius et plus proches de nous, Krishnamurti, Paulo Freire, Illich, Jacques Delors, Edgar Faure et tant d'autres appelaient de leurs vœux l'éducation tout au long de la vie. Et cette éducation tout au long de la vie, eh bien, elle dure, oui, toute la vie jusqu'au dernier souffle. Elle concerne tout l'être, corps, esprit et âme, et donc le sensible et les émotions. Elle est auto- et co-éducation, et pourtant, cette conception ne parvient pas à irradier l'enseignement, l'instruction et la formation actuellement, et nous verrons pourquoi. Rappelons quand même que les travaux récents sur le cerveau nous montrent le potentiel extraordinaire dont nous disposons, donc de ce côté-là, il y a le potentiel, il y a maintenant 7 à 9 apprentissages de base qui sont reconnus dans le monde entier. Nous n'en parlerons pas ce soir en détail, vous les retrouverez sur le site, mais nous allons d'abord écouter Yves Attou, qui, je vous le rappelle, est président du Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie. Merci d'être parmi nous. Vous êtes le président du Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie, qui est en partenariat avec l'UNESCO, et vous êtes né, je crois, en 2005, hein ?
Voilà.
Alors, je vais d'abord vous poser une première question. Il y en aura trois. La première est plutôt de l'ordre du diagnostic. Après avoir été apprécié et reconnu dans le monde, notre système scolaire français, élémentaire, secondaire, supérieur, est mis en cause par différentes études internationales. Selon vous, quelles en sont les causes ? Est-ce bien fondé ? Quels sont les principaux problèmes ? En un mot, quel est votre diagnostic ?
Alors, effectivement, nous constatons au plan international que les enquêtes placent le système français d'éducation, de formation continue, universitaire, en très mauvaise place. Et c'est vrai que nous, acteurs de l'éducation, nous sommes un peu affectés par ce décrochage, un peu en quelque sorte, de l'éducation à la française, d'autant, comme vous le dites, que notre éducation, notre école ont été pris en exemple dans les années 80. Je me rappelle, des délégations étrangères venaient voir notre école. Et c'est vrai qu'on a eu un choc en 2000 quand on a commencé à étudier les enquêtes dites PISA, vous savez, l'évaluation des élèves, des jeunes gens âgés de 15 ans. Et dans un premier temps, ces enquêtes ont été critiquées sur les critères, sur la méthode. Et maintenant, tous les spécialistes s'accordent à dire que c'est fait sérieusement, notamment par l'OCDE. Les causes, pour nous, quand on fait une comparaison internationale, on constate que le système français, en fait, date du 19e siècle. D'abord, c'est l'école Jules Ferry, et ensuite le ministre Guizot. Hein, il y a eu un tournant en 1830, quand le ministre Guizot a opté pour ce qu'on appelle une école simultanée. Simultanée, ça veut dire qu'on apprend la même chose aux enfants d'un même âge, sur tout le territoire. Et on est encore organisé sous cette forme. Et puis, il y a eu des tentatives de ce qu'on appelait la pédagogie nouvelle de Célestin Freinet, Montessori, qui ont tenté de faire évoluer ce système simultané. Mais on vit encore aujourd'hui avec ce système. Si on pouvait donner une cause principale à ce décrochage, on pourrait dire que c'est ce système qui n'a pas bougé, en fait, contre cette architecture du 19e siècle qui est encore à l'œuvre aujourd'hui. On pourrait dire aussi que la difficulté du système français, c'est qu'on a normalement une école qui a pour objectif de réduire les inégalités sociales. C'était une de ses missions, et on s'aperçoit qu'au contraire, elle les amplifie. Et peut-être que une deuxième cause, c'est qu'en France, on n'a peut-être pas mis assez d'efforts, mis assez de moyens dans ce qu'on appelle l'éducation prioritaire. Et quand on compare avec d'autres pays, on s'aperçoit que dans les pays qui réussissent, comme la Finlande, les pays scandinaves, les Pays-Bas, un gros effort est fait en direction des élèves en difficulté. Ils sont décelés très tôt. Voilà. Donc moi je pourrais dire que la cause du décrochage français, on pourrait dire que c'est un blocage, un immobilisme, et que cette architecture doit évoluer et n'est plus adaptée à notre temps. Je pourrais dire une troisième cause qui fait l'unanimité, c'est qu'on a un système qui sélectionne par l'échec. Ça veut dire qu'à chaque niveau, les élèves, les étudiants sont orientés en fonction par rapport à l'échec. Et ça, c'est très délicat parce que en France, on a aussi une espèce de hiérarchie entre la culture générale et la culture technologique et scientifique. Et la troisième cause que je pourrais développer, c'est qu'en fin de compte, non seulement on sélectionne par l'échec, mais les élèves et les étudiants en situation d'échec, on les met dans les voies professionnelles, dans l'apprentissage et dans le technique.
Voilà, c'est votre diagnostic du système.
Voilà.
Qui s'applique, j'imagine, à l'enseignement supérieur aussi.
Aussi, oui.
Alors, deuxième question, Yves. Éducation, instruction, enseignement, comment clarifier les confusions croissantes? Ministère de l'instruction ou ministère d'éducation? Et dans ce contexte, oui, comment situer la notion d'apprentissage?
Pour nous, il y a un artifice, un débat artificiel qui a voulu opposer éducation, qui veut encore d'ailleurs opposer éducation, instruction, et pédagogie traditionnelle, pédagogie moderne, ou qui veut opposer ce qu'on appelle les républicains et les pédagogues. Pour nous, c'est très artificiel, et beaucoup de spécialistes aujourd'hui pensent qu'il faut dépasser ces clivages un peu très artificiels. Quand c'est clair que tout enseignant, tout éducateur le voit dans sa pratique, quand on éduque, quand on instruit, on éduque, de toute évidence. Quand on instruit sur un texte littéraire, quand on instruit sur la culture générale, la géographie, l'histoire, ben on éduque en même temps. Et puis, éduquer, c'est pas seulement aussi l'instruction. L'éducation, c'est l'éducation familiale, c'est l'éducation avec les amis, les réseaux. L'éducation, c'est pas seulement l'école, c'est tout un ensemble qui fait que l'éducation n'est pas seulement formelle et initiale. Par ailleurs, moi je pense qu'il y a un manichéisme, et que ce débat entre républicains et pédagogues est en train d'être dépassé d'ailleurs. Hein, le philosophe Marcel Gaucher invite à dépasser ce clivage artificiel. Les républicains plaidant pour un enseignement traditionnel de transmission de savoir du professeur qui sait à un groupe d'élèves qui ne sait pas. On reproche aux pédagogues d'un certain laxisme, on on reproche aux pédagogues de privilégier l'accès au savoir par l'enfant lui-même ou par l'étudiant lui-même. Tout ça est artificiel parce qu'on sait bien dans la pratique, quand on a enseigné ou quand on a formé, que dans un cursus éducatif, les deux aspects sont complémentaires. Ça, c'est évident. Et donc, ce débat est, à mon avis, dépassé, même s'il est encore dominant, même si il y a eu un peu d'exagération vis-à-vis des positions de Philippe Mérieux, par exemple. On lui reproche beaucoup de difficultés de l'école actuelle, ce qui est un peu injuste, puisque Philippe Mérieux n'est pas pour le laxisme, n'est pas non plus pour l'indiscipline générale, quoi. Voilà, moi, ma position, je pense qu'il y a des débats artificiels en France, qui n'ont pas lieu d'ailleurs dans les autres pays. C'est lié à l'histoire, c'est lié peut-être à ce que je disais en répondant à votre première question. Est-ce que cette hiérarchie entre ce qu'on appelle les humanités et la culture technique n'est pas dépassée non plus? Est-ce qu'il ne faut pas faire évoluer cette fausse hiérarchie qu'on vit beaucoup en France?
Merci de cette clarification. En particulier, vous avez mentionné Marcel Gauchet, qui, je crois, a apporté une contribution tout à fait remarquable récemment pour dépasser ces clivages qui sont, semble-t-il, d'une autre époque.
Ben oui.
Alors, ma dernière question sera celle-ci, Yves.
Oui.
Bon, quand on regarde l'histoire des penseurs et des praticiens dans le domaine des sciences sociales, 19e, 20e siècle, l'éducation est toujours mise en valeur comme étant quelque chose d'essentiel. Surgit donc cette notion d'éducation tout au long de la vie ou d'apprentissage maintenant tout au long de la vie. Que recouvre cette perspective? Et donnez-nous au moins, et surtout pour les auditeurs, 5 éléments majeurs qui nous permettent de nous y repérer. Et est-ce que vous pensez que la perspective d'évolution qui apparaît si lente en France, sur quoi est-elle fondée? Qu'est-ce qui l'explique? Et quelles propositions concrètes vous faites?
Alors, tout d'abord, le concept d'éducation tout au long de la vie n'est pas un concept nouveau, puisque même Confucius l'avait évoqué. Hein, Confucius avait dit « Revoyez sans arrêt ce que vous savez ». Donc Confucius, il y a eu beaucoup de Condorcet, il y a eu Condorcet, Grundtvig, Comenius. Toute l'histoire montre que des philosophes, des religieux ont plaidé pour une éducation toute la vie, un apprentissage tout au long de la vie. Mais ce qui est sûr, c'est que Jacques Delors, en 1996, a relancé un peu cette idée en déclarant que l'éducation tout au long de la vie est une des clés d'entrée dans le 21e siècle. Et un an avant, Al Gore, le vice-président des États-Unis, avait dit à un congrès de l'Union internationale des télécommunications, nous allons avoir bientôt des autoroutes de l'information, il appelait ça des autoroutes de l'information, sur lesquelles il y aura des services d'éducation et qui seront transfrontaliers. Donc il y a eu deux événements en 1995 et le rapport Delors en 1996 qui ont donné un nouvel élan à cette idée d'éducation, de formation tout au long de la vie. La définition, pour être simple, elle est quasi unanime entre l'UNESCO, l'OCDE, l'Organisation internationale du travail. L'éducation tout au long de la vie se définit comme un continuum de la petite enfance à la fin de vie. En fait, c'est l'idée qu'il faut saisir toutes les opportunités d'apprentissage, qu'elles soient familiales, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient formelles, c'est-à-dire à l'école, de la maternelle à l'université, ou informelles, tout ce qu'on apprend par l'activité artistique, culturelle, et non formelles, tout ce qu'on apprend par des formations associatives de la société civile. Et donc, ça regroupe toutes les opportunités d'apprendre. Et évidemment, ça a une autre dimension. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore vraiment de politique publique d'apprentissage tout au long de la vie. Hein. Il n'y a pas encore d'exemple. Les deux exemples qui sont pris, qui sont avancés par l'UNESCO sont la Finlande et la Corée du Sud. La Corée du Sud, je ne suis pas sûr que ça proche de notre culture. Par contre, la Finlande, on peut s'en inspirer. Et vous me demandez quelles seraient nos propositions. Nous, on pense que d'abord, il faut s'inspirer de ce qui réussit dans les autres pays. Il n'y a pas de raison de ne pas aller. Beaucoup de sénateurs, de parlementaires sont allés en Finlande voir comment ce pays réussit en formation initiale et en formation continue. Et donc, nous, on propose qu'il y ait un travail concret, pragmatique. Voilà ce qui, pourquoi la Finlande est numéro un mondial et qu'est-ce qui fait qu'ils sont numéro un mondial. Je vais donner quelques exemples très rapidement sur lesquels on peut s'inspirer. En Finlande, il n'y a plus d'inspecteur, déjà. Peut-être qu'il faudrait réfléchir à l'idée de faire évoluer nos inspecteurs en formateurs ou en conseillers. En Finlande, il n'y a plus de notation, il n'y a pas de note des élèves jusqu'à 10-12 ans. Ils ne sont pas notés, voilà. Est-ce qu'on ne peut pas y réfléchir? Il n'y a pas de redoublement. Et il n'y a pas de cours magistraux jusqu'au lycée. Et puis, il y a une grande autonomie des équipes pédagogiques. Donc voilà, quelques idées que l'on connaît de la Finlande, pourquoi on ne s'en inspirerait pas. Et une autre proposition, compte tenu du blocage de notre système éducatif et de formation continue, compte tenu de cette évolution vers l'éducation tout au long de la vie, nous on propose, on l'a déjà proposé, qu'il y ait des états généraux de la France apprenante. Des états généraux de la France apprenante, ça veut dire que tout le monde se mettrait, c'est un peu comme sur l'environnement, le Grenelle de l'environnement, mais états généraux, ça veut dire qu'on associerait toutes les parties prenantes de l'éducation et une fois par an, il y aurait des débats, des échanges et qui déboucheraient sur des décisions parce que à un moment donné, il faut arrêter ce gâchis, notamment, je prends un exemple, la réforme des rythmes scolaires. Il y avait unanimité pour faire évoluer les rythmes scolaires et on voit que ça a bloqué, ce qui est incroyable, alors que tout le monde était d'accord. Et une autre proposition, c'est qu'on a fait à l'UNESCO, l'éducation tout au long de la vie devient transfrontalière. C'est-à-dire que aujourd'hui on ne peut plus raisonner seulement national ou local. Il faut raisonner transnational et international. Je m'explique. Il y a des dispositifs actuels qui sont proposés à nos enfants en France et qui viennent d'Inde, de Chine, d'autres pays, alors que les gouvernements sont compétents en matière d'éducation. Donc il y a un vrai problème là. Et on a proposé à l'UNESCO que soit organisée une convention internationale sur les apprentis, l'éducation tout au long de la vie, comme il y a eu une convention internationale sur le pluralisme culturel. Donc, on propose, c'est assez pragmatique, hein, un, s'inspirer de ce que font les pays qui réussissent, deux, de réunir des états généraux en France une fois par an sur l'idée de la France apprenante, et puis une convention internationale sur l'éducation tout au long de la vie.
Merci beaucoup Yves de votre contribution. Je pense que vous faites un forum mondial prochainement.
Oui. Un quatrième forum mondial à l'UNESCO, début décembre. Tout est indiqué sur notre site web, que je vais énumérer lentement, wcfel.org. Répète, wcfel.org. Sur ce site, il y a toutes les données en français, en anglais, en espagnol et toutes les indications sur le quatrième forum mondial qui aura lieu en décembre à l'UNESCO.
Merci beaucoup Yves. Je confirme à tous nos auditeurs que votre site est tout à fait exceptionnel et qu'ils vont y retrouver une documentation tout à fait remarquable sur le sujet qu'on vient à peine d'esquisser. Merci Yves et bonne chance pour votre Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie.
Ne quittez pas, chers auditeurs, la suite après les informations. Poursuivons, chers auditeurs, cette émission sur l'éducation tout au long de la vie. Nous avons entendu Yves Attou, qui est le président du Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie. Nous avons André en direct de Nice dans un instant que nous allons prendre. André Jordian, que je vous présenterai. Mais d'abord Aurélien, vous qui êtes enseignant et qui êtes dans ce studio, en une ou deux minutes, votre réaction.
Oui, on peut revenir sur ce qu'a dit Yves Attou, concernant notamment la question de l'évolution de l'architecture éducative en France. Il y a vraiment, je pense, une réflexion à faire sur la place de l'enseignant aujourd'hui dans le processus éducatif. Pendant très très longtemps, l'enseignant a été vraiment un passeur de savoir et ça a très bien fonctionné tant que le savoir était difficile d'accès. Depuis maintenant une vingtaine d'années, les technologies numériques permettent donc à la fois aux enseignants mais aussi aux élèves, de s'informer beaucoup plus facilement, d'avoir accès à des informations. Et aujourd'hui, ça pose vraiment de vraies questions concernant la place de l'enseignant. En effet, il faudrait certainement aujourd'hui s'orienter vers une pédagogie de la hiérarchisation des savoirs. Aujourd'hui, il faudrait penser qu'un cours, c'est apprendre à l'élève à chercher la bonne information et surtout à trouver des informations qui soient de sources sûres. Voilà. Et là, c'est pas évident.
Merci Aurélien, nous allons reprendre ça dans un instant. Bonsoir André.
Bonsoir.
Alors André, vous êtes quelqu'un de relativement peu connu, en tout cas selon moi, pas assez connu en France. Vous êtes né à Nice, vous avez eu un parcours assez extraordinaire puisque vous avez d'abord été instituteur, professeur de collège, de lycée, animateur de club de jeunes, professeur à l'université de Genève. Vous circulez entre Nice, qui est votre ville chérie si j'ai bien compris, Genève et Paris, et vous avez... C'est vrai. Et vous avez eu au départ une formation de biologiste et vous ouvrez maintenant votre perspective ou vos contributions sur l'éducation, sur l'apprentissage. Et je ne peux que recommander, mais on le refera ultérieurement dans la note de synthèse à nos auditeurs, le petit livre remarquable « Apprendre à apprendre » qui ne vaut que 3 € et qui peut changer votre vie et qui peut vous permettre non seulement de découvrir que le diplôme est une condition nécessaire, mais qu'il n'est pas suffisant. Alors André, quel est votre diagnostic sur la situation française actuellement ?
C'est-à-dire que si on s'en réfère aux études internationales comme PISA, on s'aperçoit que le niveau baisse un peu en maths. J'y bouge pas trop à l'écrit et assez stable en sciences, mais cela cache l'essentiel, si vous voulez. Le système éducatif n'est pas un système national, il fabrique surtout des élites. Il y a de plus en plus d'élèves qui sont bons, qui ont des bons résultats, mais surtout en nombre croissant d'élèves de plus en plus faibles. C'est le fond de la cale qui pose problème, si vous voulez. Et d'autre part, le système est peu efficace par rapport à l'investissement. Alors je dis pas que, si je compare évidemment avec les élèves chinois, ça coûte 10 fois plus, les élèves français coûtent 10 fois plus, mais si on prend les élèves allemands, ils coûtent 22% en moins, alors que les résultats sont pas meilleurs, vous voyez. Donc là, il y a un problème d'organisation de l'école qui est posé. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on a une école qui fait perdre le désir d'apprendre. Il y a des jeunes qui ont plein d'idées et plein de questions à l'école maternelle, et puis progressivement, ce désir, ce goût, cette curiosité disparaît au cours de la scolarité, si vous voulez. Et en même temps, l'école ne donne pas toujours les outils pour apprendre. On parlait tout à l'heure qu'il fallait chercher l'information, c'est tout à fait exact, mais il n'y a pas que ceci, on n'apprend même pas à mémoriser. On met en avant la mémoire et pourtant on n'apprend pas à mémoriser aux élèves, alors qu'il y a des outils pour apprendre à mémoriser, si vous voulez. Et puis le dernier point sur lequel on pourrait aussi s'attarder, c'est le fait que les savoirs importants pour comprendre le monde aujourd'hui, ou pour se comprendre soi-même, ils sont pas encore à l'école. Alors là, il y a un problème de programme qui est posé. Donc à la fois problème de pédagogie, problème de programme, et puis problème d'organisation, si vous voulez.
Alors, quelles recommandations vous faites, André, face à une situation comme ça, pour des gens qui sont sur le terrain sans attendre de grandes réformes ?
Alors surtout pas de grande réforme. Chaque fois qu'il y a une grande réforme, et depuis 30 ans on en a, ça bloque le système. Vous voyez, tout ce qui descend, il y a des contre-pouvoirs qui remontent. Moi je crois beaucoup évidemment à la formation des enseignants. Mais là aussi c'est pas gagné, parce que on ne tire pas parti des réussites, des échecs des UFM, on relance une nouvelle usine à gaz, alors qu'il faudrait donner des outils aux enseignants pour d'une part comprendre les élèves, comment ils fonctionnent, comment ils apprennent, non pas simplement enseigner. Là, c'est un point sur lequel on pourra revenir, c'est le fait que aujourd'hui, l'enseignement est trop centré sur justement l'enseignement, sur le dire et le dire et le faire. On pense qu'il suffit de dire pour qu'automatiquement l'élève apprenne. En réalité, l'élève doit s'approprier le savoir. Et ça, c'est tout à fait autre chose. Ça demande d'autres conditions d'apprentissage.
Tout à fait. Je vais donner la parole à Aurélien qui est en studio, qui est enseignant. Aurélien.
À votre avis, donc, André, quelle serait la place qu'il faudrait aménager aujourd'hui à l'aspect magistral de l'enseignement ? Car nous sommes en train de nous tourner de plus en plus vers l'interactivité avec les élèves.
Oui, c'est-à-dire que l'enseignement magistral, je ne suis pas pour l'abandonner totalement. Ça a un sens quand l'élève est préparé, c'est-à-dire il a les mêmes questions que le prof, il a le désir d'apprendre, il a le même cadre de référence. À ce moment, on peut faire du frontal. La plupart du temps, l'élève est à 100 lieues de ce que pense le prof, du message qu'il voudrait faire passer. Il a des conceptions, ce qu'on appelle des représentations, si vous voulez, sur ce qu'on enseigne. Et c'est-à-dire, c'est une représentation qu'il doit comprendre. Alors, pour en changer, ce n'est pas par un cours magistral qu'on y arrive. Généralement, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, comme on dit à Nice, si vous voulez. Généralement, il faut partir des conceptions d'élèves, mais en même temps, pas y rester. Et pour ça, c'est pas une méthode pédagogique qui est valable, c'est un environnement éducatif à mettre en place pour tenter de interférer avec ce qu'il est, avec ce qu'il comprend, pour l'amener à s'approprier de nouveaux savoirs.
Une autre question, Aurélien ?
Concernant comment réussir à déterminer si l'élève a acquis ou pas le savoir sur le système, notamment de l'évaluation ?
Alors justement, là il y aurait à repenser totalement l'évaluation. Aujourd'hui, les évaluations, c'est des évaluations bilan, si vous voulez. C'est-à-dire, on essaie de faire une épreuve, il a une note, et puis on passe à autre chose. Alors que l'évaluation doit être le point de départ, c'est-à-dire s'apercevoir où il en est, et s'il n'a pas réussi, pouvoir y remédier par des exercices, des travaux supplémentaires, pour qu'il puisse repasser à nos évaluations. Vous voyez, ça change tout à fait le système, là. Ne plus en rester simplement à ces évaluations sanctions, mais faire de l'erreur, éventuellement, un faux pas sur lequel on va travailler, on va prendre appui pour travailler.
Voilà, je crois qu'une idée intéressante. D'ailleurs, je pense que l'association dont je parlais à l'instant, qui a participé à la première émission École Changer de Cap, a fait un remarquable dossier sur l'erreur, je crois.
Tout à fait, j'ai coordonné ce dossier.
Voilà.
Et j'en suis assez content, ça permet de montrer que l'erreur, c'est pas une faute, il faut dédramatiser l'erreur, supprimer le rouge dans les copies, supprimer les mauvaises notes d'entrée qui très souvent bloquent l'élève, lui font perdre confiance, ne faire pas d'estime de soi, pour au contraire prendre en compte les erreurs des élèves, parce que c'est un truc quelque chose dans sa pensée, et à partir de sa pensée, essayer de trouver un ensemble d'éléments qui vont tenter de l'accompagner pour lui faire changer d'idée, si vous voulez. C'est jamais un élément, c'est un ensemble d'éléments qui concourent. Nous, on parle d'environnement didactique, si vous voulez, pour faire passer le message.
Finalement, entre l'erreur et l'ignorance, il y a une sorte de propédeutique à l'instruction et à l'éducation.
Tout à fait, tout à fait. L'ignorance, d'abord, il y aurait beaucoup à apprendre de l'ignorance. On n'enseigne pas du tout l'ignorance à l'école. Alors pourtant, l'ignorance est très riche de savoir ce qu'on ne connaît pas. Et on s'apercevrait, notamment dans mon domaine des sciences, qu'on connaît pas beaucoup de choses, sur qu'il y a beaucoup de points, on connaît rien. Et maintenant, à travers l'ignorance, ce qui est important, c'est d'amener l'élève à se poser des questions. Or, les questions, généralement, sont pas très souvent à l'école. C'est justement une des causes de la perte du désir d'apprendre, c'est le fait que on enseigne à l'élève des questions qu'il se pose pas.
Ça, ce que je vous dis, André, est très très important, l'histoire de la perte du désir et la question des questions qui ne se posent pas.
Ah, tout à fait, on apprend aux élèves à attendre que le professeur enseigne. C'est des heures énormes de perdu, alors que si on développe, comme le faisait Freinet, comme le faisait Montessori, ce désir d'apprendre, on récupère beaucoup de temps, et la question des haines scolaires est reposée autrement.
André, vous avez écrit en particulier « Apprendre à apprendre ». Il a été publié en France à combien d'exemplaires, à peu près ?
C'était surprenant parce qu'il est à 170 000 exemplaires.
Combien ?
170 000.
170 000, rappelons qu'il
faut... Alors qu'il n'y a eu aucune annonce dans la presse et dans les médias.
Oui, mais...
Ça veut dire que ça correspond à vraiment une demande.
Ah, tout à fait.
Justement, parce qu'on apprend on n'apprend pas à apprendre à l'école. On n'apprend pas les métiers d'élèves à l'école.
Bien entendu, tout à fait. Et alors, ce livre a été publié en plusieurs langues, dont la Chine, je crois.
Dans la Chine, oui. Alors là, en Chine, c'est vendu à plus de 20 000 exemplaires.
C'est assez extraordinaire. Vous avez contribué finalement à la coopération franco-chinoise après la reconnaissance de la Chine par De Gaulle. Mieux que ce qui s'est passé.
Tout à fait. Pratiquement, vous dites qu'en France, je ne suis pas très connu, alors qu'en Chine, je suis largement connu, puisque la plupart de mes bouquins sont traduits en chinois.
Oui, c'est assez extraordinaire. C'est pourquoi j'ai tenu à vous inviter ce soir, parce que il est surprenant, déconcertant, que quelqu'un comme vous, André, ne soit pas plus connu. Et je voudrais dire aux gens qui ont vu votre livre, parce que Librio le met bien en valeur, puis 3 €, c'est quand même pas cher. C'est un cadeau que même un élève peut s'offrir à lui-même, à la place d'une sucette ou d'une glace. Et ça change sa vie. Alors que la glace ne va répondre qu'à un besoin, votre livre va développer le désir, c'est ça?
Tout à fait, c'est la volonté. Et puis après, il a été décliné, il y a d'autres livres qui sont apparus à la suite. Apprendre à réussir, apprendre à réviser, apprendre à prendre des notes, par exemple. Vous voyez. À l'université, j'ai encore des étudiants qui ne savent pas prendre des notes. Et puis on ne prend pas des notes de la même façon quand on doit répondre à une question d'examen ou quand on doit faire un rapport, vous voyez. Donc là, c'est des éléments qui seraient intéressants à faire passer. De même qu'aujourd'hui, en plus, on a des outils informatiques, numériques, pour apprendre à prendre des notes autrement.
André, vous avez une jeunesse extraordinaire devant vous. Quels sont vos grands projets?
Actuellement, je travaille un petit peu encore sur l'école et mon projet, c'est d'essayer de transformer le collège. Et avec un ami, un mécène, on pourrait dire aussi, qui s'intéresse à l'éducation, qui est Jérôme Saleté de Playback, on est en train de penser à notre collège. Parce que le collège est vraiment l'aspect le plus dramatique aujourd'hui. C'est le point où les élèves décrochent le plus souvent. Et donc là, on est en train de penser comment mettre en place un collège différent.
Alors je pense qu'à ce rythme, en 2017, vous serez sur les seniors. Et comment finir sa vie d'une façon joyeuse par la connaissance?
Alors ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'apprendre une seule fois à l'école. Tout change très vite. Dans mon domaine des sciences, le savoir double à peu près tous les 5-6 ans. Et dans certains secteurs, au bout de 18 mois, le savoir est obsolète. Donc on est obligé d'apprendre en permanence. Et là, il y a toute une réflexion à mener dans la société sur la place de l'école. L'école ne devrait pas être quelque chose du début de l'année, de la danse. C'est de la vie, c'est quelque chose de toute la vie, si vous voulez. D'autant plus que pour les élèves décrocheurs, par exemple, moi, je les verrais bien travailler à 14 ans et revenir obligatoirement à l'école à 18 ans, par exemple.
Écoutez, cette émission tombe dans un contexte français tout à fait surprenant. Nous allons envoyer aussitôt après l'émission un SMS à notre président de la République pour lui suggérer qu'il vous prenne comme ministre de l'Éducation.
Oui, et plus en même temps, il pourrait prendre aussi comme conseiller en pédagogie, parce qu'il manque beaucoup de pédagogie.
Je pense. Merci beaucoup, André, et à bientôt.
Je vous remercie pour cette publicité, pour cette intervention.
C'est plus que de la publicité, c'est de la reconnaissance, André.
Absolument, merci. Surtout venant de la Côte d'Azur, ça, je suis très touché.
Merci beaucoup. Alors Aurélien, continuons ensemble.
Oui.
Qu'est-ce que ça évoque par rapport à votre pratique quotidienne, tous ces commentaires? Quel type de questions vous posez? Et si vous étiez ministre, qu'est-ce que vous feriez?
Alors, ministre, ça, je ne sais pas vraiment, mais les questions qui se posent aujourd'hui, c'est la quête du sens chez les élèves. C'est que très souvent, les élèves ont des difficultés à voir le sens que l'on peut trouver dans un programme. Ils ont beaucoup de mal parfois à comprendre les articulations entre entre un chapitre et un autre, les articulations aussi entre les matières, les articulations en fait entre les cycles. Et là c'est le rôle de l'enseignant de pouvoir répondre de manière simple et concrète à cette attente des élèves. Voilà. Déjà. Ensuite, il y a une réflexion aussi à faire sur vraiment l'architecture des différentes disciplines qui sont enseignées. Aujourd'hui, il y a un énorme décalage avec la génération actuelle, où peut-être que les enseignants sont allés à bonne école et essayent d'enseigner une culture peut-être classique. J'ai été formé dans cette culture classique, j'ai beaucoup d'appétence et de goût pour cette culture classique, mais il y a un énorme fossé aujourd'hui. Et c'est très difficile donc de pouvoir être en interaction avec des jeunes qui ont d'autres horizons culturels aussi.
Alors, c'est une sorte d'ouverture sur la société en même temps,
oui.
Ce qui va nous permettre de conseiller à tous nos auditeurs le Festival de la Poésie qui aura lieu à Caen-la-Source, à côté de Brignoles, les 12 et 13 avril. Et il y aura un ensemble de poètes dont certains viennent de Colombie, d'Uruguay. Et ce petit village adorable organise une magnifique action sur la poésie. Ce n'est pas inscrit au programme forcément.
Pas forcément.
Eh bien, c'est une belle action complémentaire. Et puis nous allons nous donner, nous, rendez-vous en avril, puisque désormais nous allons nous retrouver en avril. Et écoutez bien, nous avons trois émissions de suite qui vont, à mon avis, vous plaire. Le premier, le 25 avril, ça sera lieu d'écriture et de culture avec Sanary, qui est la perle du Sud, Cabris, que j'appellerai volontiers la belle endormie pour l'instant, et Saorge, le village et la résidence des écrivains à découvrir, qui est absolument extraordinaire. Et puis, le 29, Ce sera le thème de la politique et de la lecture, et j'interrogerai des hommes politiques pour savoir ce qu'ils disent et qu'ils écrivent. Et nous aurons un journaliste de Corse, Hervé Chauzéville, qui vient de sortir un ouvrage au fil de chemin en naviguant dans le monde entier. Et enfin, le 30, ce sera les adolescents, écriture et lecture, avec un professeur de philosophie et des adolescents qui seront ici dans ce studio, comme quoi Agora Côte d'Azur est ouvert à tous, presque au plus jeune âge. Pas tout à fait encore, on n'a pas reçu dans ce studio des gens de 7 ans, mais pourquoi ça ne viendrait pas? En tout cas, c'est important de pouvoir s'adresser à tout le monde. Et cette question de l'éducation sur laquelle nous allons finir ensemble, Aurélien, est quand même une question fondamentale. Leibniz disait que celui qui est maître de l'éducation peut changer la face du monde. Vous pensez?
Ah oui, c'est certain. En tout cas, pour la préparation des générations qui vont venir et qui vont à leur tour former... Les générations suivantes.
Alors, parents, vous nous avez bien entendu, vous pouvez changer vos enfants. Bonsoir à tous et vous changez vous-même. Bonsoir et rendez-vous en avril. En attendant, bonne fête de Pâques et bonnes vacances pour les adolescents, les élèves et les professeurs qui vont connaître ce moment.
Merci.
Bonsoir à tous.